7h23, c'est l'heure d'aujourd'hui l'économie. Bonjour Abla Jonaïdi.
Bonjour.
La France s'apprête à commémorer demain un triste anniversaire, celui des attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers que le pays ait jamais connus. 131 victimes, une menace djihadiste qui n'a pas disparu. Deux autres attentats ont à nouveau endeuillé le pays rien que ces dernières semaines, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine. Et dans ce contexte très tendu, Abla, l'État français entend montrer qu'il agit pour tarir les ressources potentielles des terroristes.
Oui, depuis les attentats de 2015, le gouvernement français n'a cessé d'étoffer son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme. Il a renforcé la coordination du renseignement, nommé un magistrat référent en matière de financement, étoffé son arsenal juridique en la matière, tout en étant à l'initiative de nouveaux règlements au niveau européen pour mieux traquer les flux susceptibles d'alimenter les actions terroristes.
Alors justement, est-ce que les modes de financement du terrorisme ont évolué depuis 2015 ?
Alors avec la perte de terrain subie par l'État islamique, ses revenus réguliers comme les taxes sur les populations ou l'exploitation du pétrole ont fondu, mais l'organisation a eu le temps d'amasser beaucoup d'argent et de le placer. Aujourd'hui, ce que les services de renseignement traquent, ce sont les microfinancements qui permettent d'envoyer de l'argent aux combattants et à leurs proches restés sur place, et deux, tous les flux d'argent qui permettraient de financer sur le territoire français des attaques terroristes. Et cela n'a pas changé, comme en 2015, il s'agit de petites sommes qui, agrégées par des réseaux, permettent de réunir la somme nécessaire pour passer à l'acte, de l'argent qui utilise plusieurs canaux différents.
Alors lesquels, Abla ?
Alors il y a toujours le transfert d'espèces opéré par des réseaux de collecteurs et d'intermédiaires et qui est très difficilement traçable par définition. Les services de renseignement ont renforcé la surveillance des réseaux associatifs également, qu'ils soient actifs seulement en France ou aussi dans les zones dites à risque, Proche-Orient ou bandes sahélo-sahériennes par exemple. On l'a vu, sous la pression des récents événements, le gouvernement en a dissous plusieurs suspectés de liens avec l'islamisme radical. Il veut élargir ses mesures dans le cadre du projet de loi sur la laïcité qui sera connu le mois prochain. Projet de loi qui devrait aussi comporter un volet contrôle des financements venus de l'étranger. Par ailleurs, il y a quelques jours, Paris a décidé que les mesures de gel des avoirs, une pièce maîtresse dans la lutte contre le financement du terrorisme, ces mesures de gel seront plus rapidement et plus systématiquement mises en œuvre par les banques, mais aussi par un nombre croissant de professionnels hors secteur financier. Plus de 600 mesures de gel en France concernent le terrorisme.
Et on a beaucoup parlé dernièrement, Abla, des crypto-monnaies comme vecteur de financement.
Oui, l'affaire de ces Français qui ont utilisé frauduleusement des coupons de bitcoin vendus en bureau de tabac pour financer des djihadistes en Syrie a fait beaucoup de bruit. Le gouvernement, sous pression, a réagi et en la matière, il semble vouloir aller plus loin encore que ne le recommande le GAFI, l'organisme intergouvernemental de référence en la matière. Paris veut renforcer la loi Pacte de 2019 et obliger les plateformes d'échange françaises à réclamer une deuxième pièce d'identité au lieu d'une aujourd'hui, et cela dès le premier euro. Des contraintes qui, d'après les professionnels du secteur, risquent surtout de leur faire perdre des parts de marché face aux concurrents. Mais force est de constater que le risque existe, a fortiori aujourd'hui, alors que les activités en ligne explosent avec le confinement. En août dernier, les États-Unis ont annoncé une saisie massive de comptes de crypto-monnaies d'une valeur de plusieurs millions de dollars collectés via des organismes de charité. Ces fonds alimentaient trois groupes terroristes, dont Al-Qaïda et l'État islamique.
En bref, dans l'actualité économique, en pleine pandémie, 15 pays d'Asie et du Pacifique doivent signer un important accord commercial ce jeudi.
Oui, s'il est signé, ce partenariat régional deviendra l'accord commercial le plus important au monde puisque les États signataires représentent 30% du produit intérieur brut mondial. Coronavirus oblige, un sommet virtuel doit acter cette entente, fruit de longues années de tractations. La Chine est à la manœuvre. Pour cette raison, l'Inde n'y participe pas. Les États-Unis non plus, qui ont tourné le dos à l'Asie ces dernières années sous l'impulsion de Donald Trump.